Donc on accueille Marc Lillot de Lyon qui va nous présenter justement un petit temps calme de relaxation et de son intérêt.
Eh bien merci beaucoup, merci à tous. Je remercie également le comité scientifique de la Sofracim de m'avoir proposé de venir présenter cette thématique hein, finalement. Vous allez voir que ça va un peu contraster avec la présentation précédente puisque je ne vais pas rentrer en détail dans la littérature. Même si elle n'est pas extrêmement abondante sur le sujet, c'est-à-dire la relaxation, la mémorisation, la simulation, etc., avec la relaxation évidemment. On va plutôt présenter les principes qui soutiennent un petit peu l'étude que nous avons réalisée. Je vous présenterai également les résultats de cette étude. Et puis, si vous êtes d'accord et si on a le temps, eh bien, on fera également une petite séance de relaxation. Je sais que vous êtes tous super accueillants vis-à-vis de cette idée. N'est-ce pas ? Alors Marc Lillot, effectivement, je suis un des anesthésistes réanimateurs. Vous voyez, je n'ai pas un cursus de psychologue, de psychiatre, de sociologue, etc. Je suis issu des anesthésistes réanimateurs à Lyon. Je travaille à l'hôpital Louis Pradel, l'hôpital Femme-Mère-Enfant, excusez-moi, du groupement hospitalier dans lequel l'hôpital Louis Pradel est inclus, des hospices civils de Lyon. Et je travaille également au centre de simulation du CLES de Lyon, le centre lyonnais d'enseignement à la simulation en santé. Et évidemment, le travail que je vais vous présenter, c'est le fruit d'un travail collaboratif. Et sans cette équipe qui nous entoure, eh bien, ça n'aurait pas pu aboutir comme ça l'a été. Donc on va parler de l'intérêt d'un temps de relaxation avant le débriefing. Et on va parler également du coup de la mémorisation, parce que ça a été un peu l'objet. Alors je présente tout de suite que les informations complémentaires que vous voudriez avoir à l'issue de cette présentation, vous pourrez les trouver directement sur PubMed, puisque ça a été publié dans le journal Anesthésiologie, qui est un journal de rang A de la spécialité d'anesthésie, il n'y a pas très longtemps. Alors, le stress des individus, c'est une composante importante en simulation, et ça ne peut pas facilement se deviner, finalement. Certains sujets, s'ils se codent sur une échelle visuelle analogique comme ça, vont se coter de façon assez consistante, de façon peu anxieuse pour le même exercice demandé, alors que certains sujets peuvent paraître finalement assez calmes en extérieur et présentent en fait intérieurement une échelle subjective de la quantité de stress qui est extrêmement élevée, puisque vous voyez, ils se cotent carrément à l'extérieur de la feuille sur la partie droite. Et donc le stress est une composante qui existe pendant la simulation. Et maintenant, comment elle impacte la mémorisation de ce qu'on souhaite proposer aux sujets, aux apprenants, que sont nos objectifs pédagogiques, par exemple ? Eh bien, finalement, ça va affecter différentes composantes de la mémorisation. Par exemple, l'encodage de la mémoire, ce qu'on appelle souvent le travail par rapport à la mémoire de travail, c'est-à-dire l'accumulation des informations, lesquelles on sélectionne et on mémorise sur un temps court, par exemple, eh bien, elle a été reportée comme étant altérée par le stress. En ce qui concerne le stockage et la consolidation de la mémoire, eh bien, elle est davantage renforcée sur la cause du stress. Laissez-moi utiliser un exemple assez pragmatique. Si jamais vous avez peur, si quelqu'un a peur, a de l'angoisse, pour une situation hémorragique, par exemple, ou la mise en place d'un cathéter, admettons pour faire simple, eh bien, la difficulté vis-à-vis de la mise en place du cathéter va renforcer la mémorisation des bonnes pratiques pour éviter la difficulté vis-à-vis de cette mise en place de cathéter. Donc encore, en clair, ça pourrait renforcer la pédagogie vis-à-vis de la bonne position du cathéter. Maintenant, si on a peur du loup, ce qui est probablement le cas de tout le monde, et que pendant qu'on est en train de poser un cathéter, eh bien là, il y a un loup qui rentre à l'intérieur de la pièce, eh bien ça va nous perturber sur la mémorisation des bonnes pratiques à réaliser en situation de pose de cathéter. Ça paraît très simple comme ça, mais réfléchissez un petit peu aux pratiques que vous avez pu observer en simulation, le nombre de perturbations qui sont réalisées et qui nous écartent de nos objectifs pédagogiques, eh bien, je pense qu'il est manifeste. Donc ça, c'était simplement pour le stockage et la consolidation de la mémoire. Il existe d'ailleurs un rapport dans la littérature qui explique un petit peu les suggestions et les propositions pour les instructeurs de simulation pour diminuer ce stress, cette anxiété qui va venir paralyser les messages pédagogiques, c'est-à-dire dévier, entre guillemets, les peurs des individus. Et des recommandations qui ont été faites par les étudiants qui sont multiples, je vous invite à lire ça, c'est assez intéressant. Et puis le rappel de la mémoire, eh bien, il est également altéré par l'anxiété, par le stress qui peut être causé en situation de simulation. Et donc on pourrait résumer ça de façon très simple, que le stress entraîne une perturbation, une distraction dans l'exercice vis-à-vis de la mémorisation. Alors j'ai mis cette petite diapositive là pour dire, mais finalement, si on était capable de gérer cette connaissance de stress, cette accumulation de stress, eh bien, vraisemblablement qu'on serait capable de tirer un meilleur bénéfice de nos situations en pratique. Le débriefing, eh bien, il s'agit, enfin, un grand nombre de personnes sont d'accord pour dire que là, il s'agit d'une réflexion personnelle avec des feedbacks dirigés. Mais des feedbacks, il en existe énormément de différents types. Et là, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ceux que vous pouvez observer ici, et je vous invite à lire cette publication également, mais plus pour vous parler qu'il existe un feedback intrinsèque que souvent, nous autres, instructeurs de simulation, nous avons tendance à vouloir minimiser. Or, pour autant, il existe. Et je vais vous expliquer un petit peu dans quel sens ça nous a paru important de laisser un peu de temps aux individus pour faire ce feedback intrinsèque, favoriser le débriefing et consolider les messages pédagogiques. On sait également, je ne vais pas rentrer dans les détails, que les objectifs du débriefing ils sont codifiés, standardisés, cadrés, et qu'il y a plusieurs étapes pour mener un débriefing un peu standardisé. Et donc la phase descriptive qui permet également de relâcher l'ensemble des émotions des individus pour aborder après la phase d'analyse du débriefing, de ce qui s'est passé en situation de simulation et surtout le pourquoi et comment on peut changer ça, avant d'aborder la phase de synthèse qui permet de renforcer les messages importants et donc d'ancrer en mémoriel les choses et les objectifs pédagogiques. Eh bien, si on résout pas correctement, la phase émotionnelle, ça peut perturber considérablement les deux autres phases et empêcher ou éviter que les individus ne mémorisent correctement ce que l'on souhaiterait qu'ils mémorisent. Parmi vous, j'aimerais savoir qui pratique volontiers ce que je vais dire un peu vulgairement, scoop, run and diffuse, c'est-à-dire c'est la fin du scénario, on se dépêche, on emmène les participants le plus vite possible dans la salle de débriefing. Parmi vous, qui réalise ça régulièrement ? Donc il y en a un certain nombre, effectivement. Et parmi tout cela ou parmi tout le monde, lorsque vous amenez rapidement vos apprenants en situation en débriefing, quels sont ceux qui démarrent tout de suite le débriefing en commençant à parler tout de suite, c'est-à-dire rapidement également. Donc à peu près le même nombre, on dira. L'idée du projet de recherche sur la relaxation est venue justement de ce principe qui nous avait été insufflé, qu'il faut se dépêcher de récupérer les étudiants pour pouvoir les aider à discuter de leurs émotions sans qu'elles se perdent, qu'elles se dispersent ou qu'elles ne soient entre guillemets résolues spontanément avant, c'est-à-dire en discussion personnelle entre deux participants, etc. Et vous savez que dans le milieu de la négociation, de la finance, eh bien, lorsqu'il y a des émotions et des communications et qu'il y a de l'émotion qui commence à intervenir, ça vient perturber les échanges, enfin bref, les accords. Et donc dans ce cas-là, souvent les équipes elles font un break, elles font une pause, elles se recentrent et elles reviennent rationnelles pour pouvoir discuter avec plus de rationalité, moins d'émotion. Et donc on est parti un peu de ce principe-là en se disant bah, finalement si on permettait aux individus de venir au débriefing avec une petite période de relaxation pour descendre un petit peu le stress, l'anxiété, ils seraient peut-être plus dans la rationalité que l'émotionnel et ça favoriserait peut-être les échanges. Vous savez également que depuis janvier 2012, le rapport de mission a proposé un certain nombre de recommandations vis-à-vis de la simulation et du débriefing. Et ce qu'il est mentionné assez rapidement, c'est que finalement, il serait important de respecter une pause entre la séance de simulation et le débriefing. Pour observer un temps de repos, prendre le recul, l'échanger, etc. Ça, c'est ce qui est proposé. Mais en même temps, un peu paradoxalement, un tout petit peu après, il est également mentionné que le débriefing doit être structuré, encadré, je ne vous apprends rien, mais également que le débriefing doit avoir lieu dès que possible après la séance. Alors comment on fait ? En plus de ça, en parallèle, eh bien, il y a des éléments qui doivent être évoqués pendant le débriefing. Il y a la gestion du stress et la gestion de l'échec que l'on a pu constater. Et ça, c'est pas forcément ce que j'ai écrit là. C'est pas forcément simple, c'est pas forcément gagné d'avance. Et puis, c'est pas facile. Ouais. Alors, est-ce que le feedback intrinsèque pourrait aider ? Lorsque l'on regarde maintenant comment fonctionne l'attention avec l'anxiété, donc ça c'est basé sur la littérature, eh bien, il y a un certain nombre de théories, hein, sur le contrôle attentionnel notamment, qui disent que finalement l'anxiété diminue l'efficience du système d'attention ciblée, c'est-à-dire qu'en fait les individus avec l'anxiété vont avoir des difficultés à se concentrer sur certaines informations, et que ça va également perturber le traitement des informations. On va être plus vulnérable à des informations de menace qui vont nous conformer dans une situation un peu de situation de stress et donc de menace. et de retrait potentiel. Alors évidemment, il existe des stratégies compensatrices, et c'est là-dessus qu'on aime bien travailler. L'anxiété et la mémorisation, eh bien, l'anxiété diminue les performances de l'encodage mémoriel, et ceci parce que, il y a plusieurs théories également, mais la théorie de l'inhibition, que j'apprécie assez volontiers, elle dit que finalement, ça va diminuer la capacité à ignorer les informations distractives, c'est-à-dire qu'on va être abreuvé par des informations, on n'arrivera plus à les trier, à les sélectionner et à se recentrer sur les objectifs. Et du coup, ça va altérer également le traitement, la mémoire de travail et le stockage de la mémoire. Tandis que la relaxation, vis-à-vis de la mémorisation, eh bien, en diminuant, on ne sait pas trop par quel moyen, l'anxiété, elle va augmenter l'encodage de la mémoire, en fait, diminuer la diminution de la mémorisation. Et qu'une relaxation même de courte durée entraîne ces effets qui sont observables à long terme. Comme le propose cette étude, en fait, je vous ai dit, il n'y a pas énormément d'études qui soutiennent ces théories. L'étude de Nava de 2004, qui reporte que finalement, chez les sujets naïfs de relaxation, 32 sujets, c'est une étude qui a été faite dans un contexte de psychologie, eh bien, en ayant de la relaxation, déjà la relaxation est efficace parce qu'il y a une diminution de la fréquence respiratoire, de la fréquence cardiaque, ils ont mesuré des paramètres physiologiques avec, vous savez, la variabilité de la fréquence cardiaque, donc qui donne des informations sur le tonus nerveux autonome, type sympathique, parasympathique, eh bien, ils ont un changement par rapport à ceux qui n'ont pas eu de relaxation de ces tonus en faveur d'une détente, d'une relaxation de l'individu sur le système nerveux autonome. Et si immédiatement après la séance de relaxation, il y a très peu de différence, je suis désolé, je ne sais pas si j'ai le pointeur, je ne vais pas faire de bêtises. Ici, RC1, il y a peu de différence avec un petit P qui ne passe pas à la significativité. Et bien, à long terme, 3 mois après, et bien, ils observent qu'il y a davantage de mémorisation dans le groupe de relaxation. Alors, ils expliquent ça en décrivant justement le décalage de l'activité du système nerveux autonome sympathique vers le parasympathique, puisque le système nerveux parasympathique afférent, qui remonte vers le niveau central, eh bien, serait augmenté et du coup et participe à la consolidation de la mémoire à long terme. Alors du coup, il existe quand même quelques questions hein, dans le rapport de l'HS de 2012. Quelles sont les caractéristiques du débriefing idéal? Existe-t-il des techniques plus performantes ou pas? Si on résume un petit peu l'ensemble des informations que j'ai essayé de vous transmettre, on a des objectifs pédagogiques, un scénario qui doit être adapté, un débriefing qui doit être structuré, une évaluation de l'efficacité pour montrer que la simulation qu'on met en place est efficace. Est-ce qu'on a la place entre le scénario et le débriefing d'instituer une pause qui permettrait de baisser la charge émotionnelle, qui serait respectueuse quand même du cadre pédagogique et qui favoriserait l'acquisition et la mémorisation des objectifs? Et donc on a proposé de regarder si la relaxation permettrait de réunir ces objectifs. Pendant l'année 2014-2015, tous les internes qui étaient convoqués au Centre lyonnais d'enseignement par la simulation santé ont été proposés pour être inclus dans l'étude. Ils ont tous été inclus, en fait. Il y avait un consentement, évidemment. Le curriculum de ces étudiants qui venaient en simulation, c'était à ce moment-là programmé pour les internes d'anesthésie et réanimation comme étant un peu structuré. Vous voyez, en première année, on faisait des scénarios sur le transport intra-hospitalier, deuxième année plutôt sur les insuffisances circulatoires, différents types qui peuvent exister. En troisième année, c'était des cas variés ou la iatrogénie induite par la situation d'anesthésie ou de réanimation. La quatrième année, c'était la ventilation, l'intubation difficile, des situations un peu complexes de gestion des voies aériennes. Et puis en cinquième année, des cas complexes. Et on a également inclus des internes qui venaient pour faire de la simulation de réanimation pédiatrique. Il n'y avait pas de critères d'exclusion et les participants étaient à la fois actifs, c'est-à-dire qu'ils participaient systématiquement à un scénario, mais ils étaient également observateurs d'un scénario ultérieur, un peu sur le modèle que je vous présente là. Si bien qu'en fait, on a regardé ceux qui étaient observateurs et ceux qui étaient acteurs, qui étaient les mêmes sujets, mais l'un puis l'autre, pour voir si finalement la relaxation pouvait avoir un effet sur les deux, c'est-à-dire en tant qu'observateur et ou en tant qu'acteur. Il y avait un scénario. Ensuite, à la fin du scénario, ils revenaient dans la salle de débriefing et là, on proposait de façon randomisée une relaxation de 5 minutes ou rien du tout, un début de débriefing immédiat, direct. Et puis à la fin du débriefing, toute fin du débriefing, l'instructeur responsable du débriefing citait de façon neutre les 5 objectifs pédagogiques du scénario. Donc les 5 points clés cliniques qui permettaient, en fait, indépendamment de tout le reste, de résoudre la situation cliniquement. En clair, c'est-à-dire, je crois que je vais vous montrer un exemple. Voilà, exemple. Eh bien, pour un arrêt cardiaque qui est causé par une fibrillation ventriculaire qui arrive en salle de réveil, eh bien, on commence la réanimation cardio-pulmonaire, on appelle pour avoir de l'aide, on fait une défibrillation, on change les personnes qui font le massage cardiaque toutes les 2 minutes, et puis on administre un bolus de 1 mg d'adrénaline et 300 mg d'amiodarone ou de cordarone après le 3e choc. Ça, c'était ce qu'on considérait comme étant les points clés cliniques qui permettaient de résoudre la situation cliniquement. D'autres exemples à côté, vous voyez, pour chaque scénario différent, on avait à chaque fois des points clés qui avaient été préparés et qui étaient cités à la fin de chaque débriefing pour les participants, sans leur dire qu'on allait les appeler 3 mois après pour savoir s'ils les avaient mémorisés, s'ils pouvaient nous les restituer par téléphone. Voilà le schéma, je vais passer. Oui, il est 12h30. Je vous ai un petit peu décrit finalement, donc ça n'apporte pas grand-chose de plus. Simplement, vous pouvez voir que il y avait donc relaxation ou pas de relaxation, et également il y avait acteur et participant observateur. Donc participant actif qui passait en scénario et participant observateur qui observait du coup le scénario. Aucun de leurs homonymes passait eux-mêmes directement en situation. On imagine bien que la dose de stress est un peu différente. Voilà. On a inclus 149 sujets, participants, et on n'avait pas de particularité en termes démographiques ou en termes d'observation psychométrique de base des sujets. On a fait quelques tests psychométriques et des échelles visuelles analogiques aussi d'anxiété. Mais lors de la comparaison entre les sujets qui ont eu la relaxation et qui n'ont pas eu de relaxation, on n'a pas montré avec ces paramètres-là, qui sont des paramètres subjectifs, hein, le VA, et puis quelques questionnaires psychométriques comme le test de STAI, on n'a pas montré de différence entre ceux qui avaient eu de la relaxation et qui n'avaient pas eu de la relaxation. Par contre, ce qu'on a montré, ce qu'on a été extrêmement surpris de voir 3 mois après, c'est que finalement les sujets qui avaient eu de la relaxation mémorisaient, enfin, étaient plus nombreux à mémoriser 3 ou plus des 5 points clés 3 mois après. C'était notre critère de jugement principal. Et ce qu'on a vu, par contre, que dans le groupe des participants actifs et qu'on n'a pas retrouvé dans le groupe des participants observateurs. On a fait une analyse multivariée pour essayer de comprendre un petit peu s'il y avait des facteurs, si ces facteurs étaient indépendamment efficace en fait, et en faisant tourner cette analyse multivariée, on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses qui sont assez curieuses, qu'on n'attendait pas forcément. Bon, c'est un, ce qu'on est très content, c'est que finalement la relaxation chez le participant actif améliore indépendamment la mémorisation, enfin le nombre de sujets, pardon, qui vont mémoriser 3 points clés ou plus 3 mois après. Mais ce que vous pouvez constater également, c'est ce qu'on a constaté, c'est que je ne vais pas m'étendre là-dessus, évidemment, ce n'est pas le sujet principal. Mais, oh, pardon, c'est que les sujets de sexe masculin, eh ben, ils mémorisaient aussi à 3 mois davantage de points clés. Je ne suis pas en train de provoquer une discussion. Hein. Je vous rappelle que c'est juste la mémorisation à 3 mois par téléphone. Et je vais rassurer les femmes, moi, j'envisage très bien que la charge mentale de l'individu par téléphone, elle n'est pas la même. Hein. Donc je ne fais pas d'extrapolation sur les performances en situation pratique. C'est juste une observation, mais je tenais juste à rassurer tout le monde vis-à-vis de ça. Donc prenez ces informations en considération quand vous analysez les résultats de l'étude. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que plus on avance dans l'âge, l'expérience des internes, parce qu'il ne s'agit que d'internes qui ont été inclus, et plus finalement l'effet de la mémorisation des points clés est importante. On ne parle pas de relaxation, on dit juste qu'en fait, quand les sujets sont plus jeunes, je suis en train de me retrouver. Voilà. L'odds ratio ici, il est inférieur à 1. Donc en fait, ça veut dire que plus le sujet est jeune, et davantage il va mémoriser les points clés cliniques qui sont proposés par les individus, par les instructeurs. Plus le sujet avance dans son cursus, et moins il restitue 3 mois après les points clés qu'on lui a expressément cités à la fin du débriefing. C'est intéressant. Ça va dans le sens de la littérature et des informations qui sont transmises à l'heure actuelle vis-à-vis de l'expérience des praticiens. Alors, si vous en êtes d'accord, il est midi 34, on va faire une petite séance de relaxation. Alors, je vais vous proposer juste en fait de vous laisser aller et puis de suivre juste le son de ma voix, d'accord ? Donc on va respecter ensemble 5 minutes de silence dans un but... Alors non, pardon, excusez-moi. Mettez-vous aussi en situation où vous venez tout juste de faire un scénario un peu stressant, un arrêt cardio-circulatoire, et là, il y a des copains qui sont là, qui vous ont vu. Vous ne savez pas très très bien si votre performance a été excellente ou si elle a été un tout petit peu moins qu'excellente. Mais comme nous tous, vous vous dites, bon là maintenant ça se relâche, mais j'ai une autre pression qui apparaît maintenant, parce qu'il va falloir discuter. Et donc on va savoir un peu ce qui va se passer. Donc là vous imaginez, vous êtes un peu transpirant, parce que vous avez physiquement donné, émotionnellement donné, vous aviez une charge mentale qui était élevée. Et puis là maintenant on va aller discuter. Et on va se rendre compte d'un certain nombre de choses qu'on n'avait peut-être pas imaginées ou pas compris de la situation qui s'est déroulée. Ça vous va ? Alors on commence. Nous allons respecter ensemble 5 minutes de silence dans un but de relaxation avant de débuter le débriefing. Vous allez effectuer lentement et calmement les actions que je vais vous proposer. Laissez-vous guider par le seul son de ma voix, juste ma voix, qui va vous guider pendant ces 5 minutes. Vous êtes prêts ? Très bien. Vous vous asseyez confortablement sur votre chaise, enfin dans votre siège plutôt. Et maintenant que vous êtes confortablement installé, vous fermez les yeux. Très bien. Vous avez les yeux fermés et vous relâchez vos paupières fermées à droite, puis à gauche. Très bien. Vous allez maintenant relâcher votre visage en commençant par la bouche et les muscles de la mâchoire. Vous relâchez votre visage lentement. Vous continuez par détendre les muscles des joues, puis des pommettes. Vous détendez maintenant les muscles du front et puis ceux du menton. Vous relâchez vos mains, vous détendez vos muscles des mains, vous détendez vos muscles des avant-bras, vous relâchez maintenant les coudes, vous relâchez les bras, et maintenant vous relâchez les épaules à droite et à gauche lentement. Vous relâchez maintenant les muscles du cou. Maintenant, vous allez visualiser un lieu que vous aimez beaucoup. Un lieu où vous appréciez vous reposer. Un lieu paisible, un lieu singulier, un lieu où vous vous sentez bien et en sécurité. Vous détaillez lentement ce lieu, en appréciant les petits détails qui font de ce lieu un endroit que vous aimez. Vous prenez le temps de vous attarder dans ce lieu reposant. Vous vous sentez bien ? Vous vous concentrez maintenant sur votre respiration. Une respiration lente et calmement, vous inspirez, puis vous soufflez tranquillement. Vous inspirez, et puis vous soufflez. Vous ressentez l'air remplir paisiblement l'ensemble de vos poumons, et vous vous voyez dans ce lieu que vous aimez particulièrement. Vous inspirez, et vous soufflez. Vous êtes bien, et vous vous relaxez paisiblement. Vous relâchez votre ventre lentement et vous continuez à respirer calmement. Vous inspirez, puis vous soufflez. Vous continuez de visualiser le lieu que vous appréciez tant et vous observez calmement le spectacle qui s'offre à vous. Vous prenez le temps de vous sentir relaxé dans cet environnement. Vous respirez calmement et vous vous sentez bien. Vous allez maintenant délicatement redresser les épaules et puis la tête. Puis lentement mettre vos mains l'une sur l'autre sur le ventre. Très bien. Maintenant vous allez tranquillement ouvrir les yeux, doucement. Nous allons maintenant reprendre la séance de simulation par le débriefing. Alors, évidemment, c'est difficile de s'imaginer tant que ça, être en situation de stress, comme on pourrait l'être et le vivre lorsque l'on est directement impliqué dans une situation d'arrêt cardio-circulatoire et qu'on va aller débriefer derrière. Cependant, l'idée de l'exercice qui était proposé là, c'était simplement de vous faire un peu ressentir ça. Et j'avais prévu un certain nombre de petites questions pour savoir si vous avez bien aimé, si ça vous a fait travailler, si vous avez réfléchi à d'autres choses, si vous avez résolu des questions pendant ces 5 minutes de pause, de relaxation, des questions qui vous travaillent. Donc en clair, si votre esprit, si votre mental s'est préoccupé d'essayer de profiter de cet instant-là que vous avez pour vous, pour avancer également personnellement. Mais finalement, ça c'est assez propre à chaque individu et je ne suis pas certain que ça marche aussi bien ici qu'en situation de stress réel. Ce que je vous propose maintenant, si vous êtes d'accord juste avant les questions, c'est qu'on fasse une petite expérience cognitive différente et là c'est totalement expérimental pour moi. Donc vous êtes un peu les sujets, quoi. Alors pour ça, je vais vous inviter en fait tout simplement à fermer vos yeux et à rester le plus calme possible en profitant à peu près des 20 secondes prochaines qu'on vous offre de calme intérieur. Très bien. Parmi vous, je vais juste demander si vous pouvez simplement lever la main ceux qui ont eu des pensées qui vous proviennent du passé, des souvenirs, des choses qui peuvent être agréables ou désagréables. Finalement, ce n'est pas l'objet de la question, mais plus des pensées qui vous proviennent du passé ou des pensées qui vous proviennent du futur. C'est-à-dire en clair, des idées, des choses que vous devez réaliser, des choses qu'il ne faut pas que vous oubliez de faire, etc. etc. Qui parmi vous a eu des idées provenant du mental, en fait, hein, pendant ces 20 secondes. Qui parmi vous a eu des idées comme ça? D'accord. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on essaye de se mettre ensemble dans une configuration un petit peu différente, où on va essayer de profiter véritablement de l'instant présent et de ne pas être perturbé par ce mental qui nous dicte, entre guillemets, les choses qu'on avait à faire, ou les choses qui n'accepte pas forcément qu'on soit juste là présent, ici, tous ensemble. Qui a envie de nous emmener ailleurs. Et pour ça, je vous propose juste de vous mettre dans la configuration un peu comme un chat qui est face à un trou, il sait qu'il y a une souris derrière, et il attend juste de savoir quand est-ce qu'elle va sortir. Et vous, vous êtes comme ça, face à votre propre mental, en vous demandant, tiens, quelle va être ma prochaine pensée? Et là, vous allez l'observer de façon curieuse, en vous disant, tiens, cette pensée, elle est intéressante. Et on va faire ça pendant les 20 secondes suivantes. Je vous laisse fermer les yeux, et je vous laisse 20 secondes dans cette configuration. Donc là, la question maintenant, c'est finalement, c'était quoi l'idée? C'est quoi l'idée du mental qui vous s'est imposée à vous? Et probablement que parmi vous, il y en a beaucoup qui répondraient, mais en fait, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu d'idée. C'est-à-dire qu'on était dans l'instant présent, on était en train de s'observer nous-mêmes, mais on n'avait pas d'idée du mental à ce moment-là. Donc je vais vous proposer la dernière expérience, on va s'arrêter là. Vous allez refermer les yeux. Vous allez essayer de vous remettre dans cette configuration de la présence, juste de la présence locale ici, tous ensemble, dans ce congrès. Et on va essayer juste de profiter de 10 secondes de silence ensemble et de visualiser la pièce depuis le dessus. En profitant juste de ce moment qu'on passe et qu'on partage tous ensemble. Voilà, j'espère juste que vous vous souviendrez de ce moment commun et je vous remercie de votre attention. Alors, moi je suis bien relaxé, mais il faut que j'aille prendre mon avion. Donc je pense que je vais peut-être avoir le temps juste pour une question, mais après je vais partir.
Il y a une question éventuellement ?
La relaxation. Donc toi, tu veux savoir si on continue la relaxation en situation à l'heure actuelle. En fait, on s'est rendu compte que ça prend du temps aussi. Et pour être tout à fait honnête, avec l'analyse qu'on a faite, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines situations qui profitaient plus que d'autres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai laissé entendre, le stress participe à l'effet de la relaxation ou pas. Et donc, si on est très relaxé, très, très détendu, bien sûr, on va en tirer un bénéfice, mais il est possible que le bénéfice en termes pédagogiques de mémorisation soit moindre. Et donc, du coup, on va peut-être vouloir passer davantage de temps, surtout si on est contraint, à aller chercher les cadres de pensée, etc. Bref, faire un débriefing bien structuré et bien efficace. Donc, on fait encore de la relaxation, et on la fait volontiers à la demande des instructeurs, à la demande des participants, et également lorsque les situations nous paraissent avec un contenu émotionnel important. Mais je dois avouer qu'on ne la propose plus systématiquement. Voilà. Alors que pour l'étude, effectivement, elle a été proposée systématiquement. Mais je pense qu'on est tous un peu dans la même contrainte, c'est-à-dire le temps. Cependant, il serait intéressant de voir l'effet de cette pause relaxation, non pas seulement sur les participants, mais sur les instructeurs de simulation. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, les instructeurs eux-mêmes, systématiquement, étaient dans la pièce et assistaient et participaient à la séance de relaxation. Et je pense, mais ça n'a pas été mesuré, et ça n'a pas non plus été proposé comme résultat, que ça a un effet indéniable, en tout cas je suppose que ça a un effet important sur l'instructeur et sur la façon dont il va mener son débriefing après. Quel que soit ce qui va se passer pendant cette séance pour lui-même ou pour eux-mêmes, je pense qu'il y a quelque chose. Et le minimum, ce serait de se dire juste qu'on a participé à une certaine expérience commune et que du coup, ça nous a valorisé en tant qu'équipe. Le maximum serait j'ai réussi à préparer mon feedback et je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses que j'avais oubliées et que je n'aurais certainement pas débriefé si j'étais parti bien en tête dans le débriefing parce que finalement, je n'ai pas eu le temps d'analyser à distance la situation. Si on court, on a la tête dans le guidon, on voit moins de choses, probablement. Donc ça pourrait, j'espère, participer également à ça.
Merci beaucoup, Marc.
Merci pour ce...